Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc, Bouffon ? À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher devant le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
Vaste et complexe sujet que celui du sushi. On pourrait faire les radicaux et vous engueuler parce que statistiquement, c'est sûr que certains d'entre vous en mangent pas vraiment exactement comme il faut. Mais on va plutôt jouer la carte de l'apaisement en acceptant aussi parmi nous ceux qui mangent des sushis à un chouïa trop industriel le lundi soir devant une mauvaise série comme on mangerait des nuggets. C'est 2019 et on peut plus vraiment mener de front tous les combats culinaires. Et puis, on n'avait pas envie non plus de passer 35 minutes à expliquer pourquoi la sauce soja sucrée, c'est le diable. Même si, franchement, entre nous, on aurait pu, on a préféré raconter la formidable histoire de ces petites bouchées de poissons crus qui font la beauté de la culture culinaire japonaise et qui ont conquéri le monde après une petite étape californienne. Et pour avoir une expertise sans faille, on a invité un maître sushi qui officie à Paris, Masayoshi Hanada, qui prépare son poisson et le sert chez Sushi B, un des meilleurs, sinon peut-être le meilleur, sushiya de France.
Beaucoup non aussi, va t'en connaître.
En parlant de mes sushis sont très délicatement faits. Donc, si on pince trop de jours avec des baguettes, ça casse. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les baguettes, ce serait mieux de manger avec la main.
Mais d'abord, on voulait raconter son histoire à ce sushi. Et pas que son histoire ancestrale, mais plutôt l'histoire moderne, celle qui a fait qu'à la fin des années 90, on est passé de « Ah non, mais du poisson cru, moi jamais !» à « Comment ça, attends, tu sais pas ce que c'est un maki-mek ?» Et c'est Pierre Raffard qui est venu m'en parler. Si ce nom vous dit quelque chose, c'était lui qui était déjà passé par les kebabs, et à la fin de l'interview la dernière fois, il m'avait dit qu'il adorait parler de sushi. Alors, ni une ni deux, je me suis pas privé de l'inviter. Géographe passionné des mouvements liés à la cuisine, on a échangé ensemble sur comment le sushi a fait pour envahir la planète et savoir si c'est vraiment grave qu'il existe des sushis okiri.
Maintenant, quand on nous dit sushi, tout de suite, on pense à japonais. Sauf que, au départ, si on peut dire, d'ailleurs, j'en avais parlé avec dans le cas du kebab, quand on fait l'histoire de l'alimentation, c'est toujours très, très, très difficile de dire tel plat est né à tel endroit, à telle date précise, sous l'action de tel ou tel cuisinier. Le sushi, c'est un petit peu la même chose. Mais comme tu dis, les preuves qu'on a de sa naissance, si on peut dire, c'est grossièrement aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ en Chine. Et comme tu le dis, c'était simplement une méthode de fermentation. C'est-à-dire que l'idée était de conserver du poisson dans du riz fermenté. Et ensuite, ce qui était assez intéressant, maintenant on n'imaginerait pas des sushis sans riz, à l'époque, le riz, une fois que le poisson avait été fermenté, conservé, on jetait le riz, on ne le mangeait pas. Donc oui, au départ, le sushi, c'est surtout une technique de conservation toute simple, si je peux dire.
Oui, ça, et puis petit à petit, le riz prend une place plus importante dans le plat, et d'un coup, ça devient un plat de poisson plus ou moins cru qu'on va manger avec du riz.
Oui, ouais, tout à fait. Et le sushi qu'on connaît à l'heure actuelle, j'imagine que tu connais déjà un petit peu l'histoire, c'est surtout le sushi qui se consommait à Tokyo dans le courant du 19e. D'une technique de fermentation, on est arrivé au fur et à mesure à un plat en tant que tel. Et dans le courant, on va dire la première partie du 19e à Edo, donc Edo, ce qui correspond aujourd'hui à Tokyo, on a eu cette espèce d'émergence d'un plat en tant que tel, donc un sushi très particulier qui n'a cessé, et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on va évoquer, de se diffuser. Alors, certes depuis un centre japonais, mais aussi, on va le voir, j'imagine, depuis le centre américain qui est particulièrement important, en fait.
C'est ce qu'on va voir après tout à l'heure, mais juste pour vraiment border comme ça l'histoire du sushi, est-ce que dès le début, quand il est consommé à Edo, est-ce que tu sais si dès le début, ça avait ce côté un peu bourgeois, un peu... c'était un mets chic ?
Alors, ça, c'est toujours difficile d'évaluer ça. C'est sûr que c'était pas un mets, un plat qui se consommait au coin de la rue. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sushi, donc du poisson cru, c'est quand même assez le poisson cru est quelque chose pour avoir du poisson de qualité, c'est quand même assez difficile de le conserver. Et donc, de fait, c'était assez réservé. Alors, j'ai pas forcément dire que c'était un plat de riche. Mais c'était pas un plat tout venant, ça c'est sûr.
C'était au moins un plat pour les grandes occasions.
Voilà, tout à fait.
Alors on va vraiment parler du moment où ça exporte dans les années 60, 70 et vraiment dans les années 90. Mais est-ce qu'avant ça, justement, dans le courant du 19e siècle, est-ce que déjà il y a un moment où ça commence à s'exporter ?
Alors, c'est toujours difficile quand on fait la diffusion, c'est-à-dire quand est-ce que ça commence à s'exporter. Est-ce qu'une initiative individuelle peut nous faire dire que le plat s'est exporté? Alors, ben finalement, l'histoire du sushi, elle, et l'histoire de sa diffusion, elle est intimement corrélée avec l'histoire des migrations japonaises. Dans un premier temps, parce que justement, ce qui est intéressant avec le sushi, c'est qu'on part d'une migration très particulière, donc les Japonais, et au fur et à mesure, on va le voir, sa diffusion n'est plus uniquement liée à la présence dans tel ou tel endroit d'une communauté japonaise. Ça, c'est très important, et c'est pour ça que je trouve que le sushi est un exemple particulièrement intéressant pour bien comprendre la mondialisation de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a à la fois quelque chose qui est très lié à des communautés ethniques, si on peut dire, présentes sur place, mais aussi, dans un deuxième temps, à la mondialisation et à la diffusion d'un goût et de saveurs et de représentations mondiales et mondialisées. Donc, dans le cas du sushi, finalement, si on essaye de retracer un petit peu l'histoire de... Comme je te dis, on peut pas faire l'économie d'un peu d'histoire. Donc, si on fait l'histoire de la migration japonaise, c'est japonais, alors... Certes, on peut toujours revenir au 15e siècle, au 16e siècle, il y a eu des voyageurs japonais, certes. Mais vraiment, ça commence, dans les années 1840-1850, où un certain nombre de Japonais commencent à migrer, non pas aux États-Unis, alors certes, il y en a peut-être certains, mais surtout dans les pays d'Asie limitrophes. Alors là, c'est toujours très difficile quand on commence en histoire de l'alimentation et en histoire générale, ce qu'on appelle décentrer le regard. C'est-à-dire que nous, on est, en tant que Français, en tant qu'Européens, on a toujours tendance... en tant qu'occidentaux même, à regarder les diffusions depuis n'importe quelle région du monde. Ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Amérique du Sud, ça peut être le Moyen-Orient, l'Asie, ce que tu veux. Bon, et on a tout le temps une sorte de réflexe de regarder quand est-ce que c'est arrivé, soit aux États-Unis, soit en Europe. Là, la première diffusion, il faut vraiment décentrer le regard et se dire qu'elle a surtout lieu en Asie. Donc, les premières communautés japonaises véritablement importantes, c'est surtout en Corée. En Chine, en Corée, un petit peu en Malaisie, mais vraiment le gros du contingent, c'est en Corée que ça se diffuse. Ensuite, une diffusion hors des frontières asiatiques et d'Asie du Sud-Est, et notamment, là on y arrive, aux États-Unis et majoritairement en Californie. Alors, cette migration, elle est double. C'est d'une part une migration de travailleurs, mais aussi une migration d'hommes d'affaires. Alors, est-ce qu'on peut parler de migration dans ce cas-là? Dans la géographie des migrations, on a toujours tendance à utiliser le terme migration pour... Allez, je vais faire très simplement, même si je me ferais taper dessus par mes collègues. Une migration, c'est pour les pauvres.
Oui.
Et expatriation, c'est pour les riches.
Alors que c'est globalement la même chose, c'est le même mouvement de population.
Écoute, c'est ça, voilà. Puis l'idée de migration a quand même l'idée toujours de mouvement. Qu'on soit dans un ouvrier travaillant en usine ou un homme d'affaires, finalement, cette idée de mouvement est liée tout le temps, tu vois.
Et donc, pour revenir sur les sushis, est-ce qu'ils les emportent avec eux dès le début ou est-ce que c'est un truc qui arrive un peu plus tard? Comment, parce que j'imagine que quand même, c'est un savoir-faire, c'est pas aussi facile d'emporter. Faire du pain, par exemple, c'est un peu plus facile d'emporter la recette du pain que d'emporter une recette aussi technique que celle des sushis.
Ouais, tout à fait. Alors, d'une part, emporter la recette, mais aussi emporter les ingrédients.
Oui, les produits qui doivent
être... Les produits qui sont quand même, si on se remet, on va dire, dans le Los Angeles, aller des années 40-50, écoute, essaye de trouver du wasabi, bon courage. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Alors, ce qui s'est passé dans le sushi, pour l'histoire du sushi et l'histoire de sa diffusion, c'est... très souvent la même chose que pour d'autres produits, d'autres recettes. C'est que dans un premier temps, sa consommation, elle est exclusivement réservée à un cercle très restreint de migrants. Pourquoi? Déjà parce que le sushi, par rapport au burger, par exemple, ou même à la pizza que tu peux adapter vraiment assez facilement dans un premier temps, je dis pas que le sushi, c'est pas adapté ensuite, mais... manger de la viande crue, c'est pas évident quand même.
Oui, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est évident pour nous, mais même dans les années 80, manger du poisson cru, c'était étrange.
Et alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Enfin, même si je m'intéresse à l'ensemble de l'alimentation, mon sujet de recherche, c'est la Turquie. Et donc, j'ai vécu plusieurs années en Turquie, et notamment à Istanbul. Et à Istanbul, c'est fascinant, en fait, d'aller dans un restaurant de sushi. Dans un restaurant japonais servant des sushis. Istanbul, t'es vraiment dans un pays, très rapidement, dans un pays émergent avec une nouvelle bourgeoisie, plus, voire plus. Et ces dernières années, depuis, allez, on va dire une dizaine, une quinzaine d'années, il y a beaucoup de restaurants japonais qui se sont ouverts. Alors, ces restaurants japonais-là, c'est pas du tout venant, hein. Vraiment avec un menu très cher, un menu très élaboré, très souvent dans des hôtels, à l'intérieur d'hôtels de luxe. Bon. Et c'est fascinant, en fait, quand je prends ma casquette de sociologue, d'aller dans ces restaurants-là. Alors, ce qui est servi est tout à fait correct, mais c'est surtout d'observer les gens qui mangent. Et en Turquie, et dans le monde musulman en règle générale, manger de la viande ou du poisson cru, c'est quelque chose qui est vraiment pas naturel. Et c'est assez drôle de voir justement ces consommateurs aisés. Donc quand je dis aisés, c'est aussi avec un capital culturel important. C'est-à-dire qu'ils ont sûrement dû voyager, ils ont sûrement dû déguster des plats, des saveurs, des produits qu'ils connaissaient pas. Bon, mais tu vois bien pour ces consommateurs turcs, quand le sushi arrive devant eux, donc c'est ce plat de poisson cru, et qu'ils sont obligés de manger quelque chose qui n'est pas vraiment familier,
naturel, ouais.
Ça fait quand même un choc.
Oui, on leur a dit que c'était cool d'aller manger des sushis, donc ils y vont, mais une fois qu'ils sont face au fait
voilà,
accompli, c'est un peu compliqué.
Là, on est totalement dans ce que je dis toujours à mes étudiants, quand je leur demande pourquoi, quand on travaille sur le restaurant, l'histoire du restaurant, les raisons pour lesquelles... Je leur dis, vous n'allez quasiment jamais au restaurant pour manger. Il y a toujours plein d'autres choses ailleurs, à côté. Et le sushi, alors dans ce cas d'Istanbul, bon, c'est vraiment exemplaire, mais... On revient, si tu veux, au statut qu'avait le sushi avant aux États-Unis, on va dire, dans les années 70-80.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je saute un peu des étapes, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en parle. Le sushi a presque un côté de gentrification au sens très large, quoi. C'est-à-dire que quand une capitale commence à avoir des restaurants de sushi, c'est qu'elle commence à être vraiment émergente et qu'en fait, elle a une population qui peut s'offrir ce luxe de manger un truc un peu exotique, poisson cru, etc. Et c'est vrai que de mon souvenir, en fait, en préparant cette émission, je me suis dit, c'est marrant parce que quand les sushis arrivent en France, ça arrive en France plus par un truc qui, en fait, est à la mode aux États-Unis que par un truc qui est japonais, en fait. C'est plus une espèce de ricochet étrange. Et c'est comme ça que ça arrive un peu dans toute l'Europe aussi, j'ai l'impression.
Ouais, tout à fait. On en parlait tout à l'heure. Le sushi, c'est un plat autant japonais qu'américain, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu vas dans un restaurant de sushi, tu te dis pas « je vais dans un restaurant américain ». Mais quand tu regardes avec attention l'histoire de la diffusion du plat, tu peux pas faire l'économie de l'étape américaine, si tu veux. Enfin, une étape qui continue et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, hein. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est donc, comme on disait, ces premiers migrants japonais s'établissent aux États-Unis et dans le courant des années 70, le sushi devient une sorte, alors, et particulièrement apprécié par toute cette frange de la population un peu bohème, tu vois, un peu hippie, un peu bohème, pour tout un tas de raisons. Alors, les plus importantes, ça va être cette idée, tu vois, d'une sorte d'authenticité du plat, avec de la viande crue, non transformée, qui conserve toutes les valeurs nutritionnelles, diététiques, etc. du produit. Mais en plus, un profil de consommateur qui est très intéressé par tout le côté ethnique, exotique. Replaçons-nous toujours, c'est toujours difficile aujourd'hui, en 2019, de penser le sushi comme quelque chose d'exotique ou d'ethnique. Maintenant, le sushi, certes, il y a toujours cette idée, on va manger japonais. Entre amis d'ailleurs, hein, on va manger japonais, donc il y a toujours cette dimension exotique. Mais le sushi, c'est quasiment plus facile à Paris ou même ailleurs de trouver du sushi que de trouver une bonne blanquette de veau.
C'est vrai.
Bon, donc, dans un premier temps, le sushi se voit approprié par ses mangeurs, par ses consommateurs. Mais en même temps, c'est un double. Et finalement, avec le sushi, on est toujours dans cet entre-deux. Et il est aussi très rapidement approprié par une bourgeoisie qui, en fait, est très rapidement séduit par ce côté, justement, qu'on retrouve dans les vrais restaurants de luxe de japonais, pas uniquement de sushi, mais cette manière de manger à la japonaise, ce raffinement, cette attention portée à la fois à l'esthétique de l'assiette, à la manière de préparer les produits, etc. Donc finalement, le sushi, là, d'une part, d'un côté, ça va être les allez, on appellerait ça maintenant les bobos, ouais. Tu vois, les bobos californiens des années 70, mais en même temps, dans les années 70-80, c'est aussi cette nouvelle bourgeoisie d'hommes d'affaires qui voyage et qui est et ce sushi devient finalement une manière de se distinguer.
Oui, c'est le ce qui a pu être à un moment le service à la française, le chic de la France, tout ça, c'est légèrement déporté vers le Japon, mais c'est encore maintenant le cas. On aime bien aller dans des très grands restaurants japonais parce que il y a quelque chose de finesse, de légèreté, enfin tous les clichés d'authenticité japonaise qui sont parfois vrais, parfois surjoués, mais qui sont le nouveau chic, quoi. C'est justement ça que les gens le font. Et donc 70-80, ça marche beaucoup en Californie, mais encore pas trop dans le reste du monde. Et c'est vraiment dans les années 90, j'ai l'impression, où là, ça pète complètement.
Ouais, parce que pour une bonne et simple raison, c'est que donc on a cette double adaptation, mais en même temps, et la diffusion, ça, on a très souvent tendance à l'oublier, mais pour tout, hein, pas uniquement pour le sushi, elle se fait aussi par l'industrialisation. C'est-à-dire que ça je le vois dans mes recherches pour n'importe quoi, on a très souvent tendance à oublier l'industrialisation de la production et le fait qu'on consomme qu'on le veuille ou pas, hein. Guillaume, j'irai chez toi, j'ouvre ton frigo, alors bon, toi t'es un vrai gastronome, mais chez n'importe qui là en ce moment on mène une recherche, c'est très intéressant, on demande aux gens de prendre des photos de leur frigidaire et de leur garde-manger, on va dire. Alors on prend la photo d'une part, après on fait un entretien avec eux en leur demandant ce qu'ils mangent, comment ils achètent, etc. Alors, quand tu parles avec eux, donc sur des entretiens déclaratifs, tu as l'impression que tout le monde mange bio, mange local, etc. Et quand tu ouvres le frigidaire, tu te dis bah, non, mais ça me semble pas vraiment bio tout ça. Bon, donc c'est vraiment intéressant. On a trop tendance à oublier cette dimension industrielle et notamment dans le cas du sushi. Parce qu'avec son succès, son premier succès, y a des entrepreneurs qui flairent la bonne affaire et qui, très rapidement, rentrent et proposent d'une part un sushi très simplifié. C'est-à-dire ça va être les sushis qu'on connaît aujourd'hui, ça va être les makis qui ne sont qu'une partie de l'offre particulièrement riche de sushis, bon, qui vont faire sortir ce sushi des restaurants et qui vont le proposer dans les supermarchés.
Oui, en barquette. En plus, avec l'espèce de corner japonisant, entre guillemets, qu'on trouve dans les supermarchés avec vaguement des gens d'Asie qui préparent les sushis, qui sont pas forcément japonais, qui lui donnent l'impression au client qu'il achète. Encore une fois, c'est un autre cliché d'authenticité. Et c'est vrai que c'est par là qu'en fait tout a pété partout, parce qu'en fait, c'est le sushi ne devenait plus ce truc de luxe. Enfin, il y avait toujours cette image de luxe, mais c'était le luxe accessible à n'importe qui.
Oui, tout à fait, tu as raison. Et cette simplification du sushi, c'est toujours intéressant et tu as bien mis le doigt dessus. Faut aussi voir comment évolue le secteur et comment se transforme le secteur. Et comme tu sais, dans un premier temps, on était surtout avec des cuisiniers, des chefs japonais, avec un vrai talent de préparation. On ne s'improvise pas maître sushi, ça, non, pas du tout. Faire un sushi, c'est pas simplement couper du poisson cru, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on est d'accord, après, peut-être qu'on exagère un petit peu en te le faisant passer sur un stade, c'est un art, etc. Ça, je ne dis pas. Mais ça ne s'improvise pas. Mais avec cette diffusion du sushi, comme tu dis, le maître sushi japonais, ça a été de plus en plus difficile d'en trouver parce que un maître sushi, ça coûte cher.
Et ça coûte cher.
Faut pas non plus se leurrer, hein, l'argument économique est particulièrement important. Donc finalement, sans forcément abandonner cette dimension exotique, le maître sushi japonais, c'est devenu un cuisinier malaisien, ou c'est devenu un cuisinier chinois, ou c'est devenu un cuisinier coréen dans une moindre mesure. Allez, je vais vraiment faire de la provoque, mais pour le mangeur et le client qui connaît pas grand chose, c'est genre un malaisien ou un japonais, c'est plus ou moins la même chose, tu vois.
Oui, ça fait la blague pour penser qu'on mange un truc authentique, mais et c'est vrai que du coup, c'est même un peu catastrophique d'ailleurs que ça devienne industriel, parce que le sushi a besoin de poissons frais, a besoin... on peut même faire une parenthèse sur le sushi au saumon, qui a une histoire assez particulière, puisqu'il me semble, on l'avait évoqué très rapidement la dernière fois, mais il me semble qu'en fait, il n'y avait pas assez de saumon maintenant pour subvenir à l'offre Et c'est le Danemark ou la Norvège non, qui a vendu du saumon au Japon. Est-ce que tu peux raconter cette histoire?
Alors là, je sais pas, je connais pas vraiment ce livre, mais c'est surtout qu'on le voit, le thon. En ce moment, on est sur un débat gigantesque sur le thon. Alors certes, dans le nouveau marché de Tsukiji, il y a quoi? Il y a un mois et demi, on a vendu le thon le plus cher du monde, etc. Bon, ça, c'est joli pour la galerie. La vérité, c'est que le thon, en ce moment, est en voie de disparition. Donc, on va de fait arriver à des sushis, à des fusions, si on peut dire, dans lesquels vont être utilisés d'autres types de poissons qui, traditionnellement, ne sont peut-être pas utilisés. Ça peut être le saumon, ça peut être, pourquoi pas, du flétan, du maquereau, que sais-je. Alors après, cette question du saumon norvégien, ça...
Je crois que je regarde, parce que je sais que j'avais lu un truc où en fait, je crois que c'était des Norvégiens qui avaient voulu vendre leur surplus de poissons au Japon, et c'est à peu près comme ça qu'a été inventé le sushi au saumon, qui n'est pas du tout vraiment un sushi traditionnel. Il y a un autre truc, c'est que, qui est assez marrant avec cette mondialisation du sushi, c'est que d'un coup, ça explose aussi de créativité avec des guillemets, parce que c'est pas toujours très heureux. Mais là où c'était au Japon un peu contraint dans un espace très traditionnaliste, comme beaucoup de cuisines japonaises, avec vraiment des codes très précis. Alors, une myriade de sushis, mais qui restaient vraiment très précis. D'un coup, ça part à inventer le California Roll, qui est pas du tout...
Comme son nom l'indique, d'ailleurs. Là, au moins, il n'y a pas...
Il n'y a pas mensonge.
Mais je sais pas si t'es déjà allé justement dans un restaurant... Je sais pas si t'es déjà allé au Japon.
Ouais, je suis déjà allé au Japon.
Est-ce que t'es déjà allé dans un restaurant de sushi?
Un sushi-ya, ouais, je suis déjà allé dans quelques-uns.
C'est très étrange. Pour ma part, je peux même pas dire que ce soit agréable.
Ça met la pression.
Ça met et vachement la pression. Parce que tu maîtrises pas les codes du tout. Il y a quand même un échange de proximité avec le maître sushi. T'as peur de faire une bévue. Et finalement, cette industrialisation de la production, elle a enlevé toute cette pression qu'on a sur nos pauvres
vrai.
Épaules. Bon. La manière qu'on a aujourd'hui de manger des sushis, nous en France ou à l'étranger, par rapport au Japon à l'étranger, ferait sauter de sa chaise n'importe quel japonais. Mais en même temps, cette industrialisation, c'est vrai qu'elle a fait perdre les particularités gastronomiques, culinaires, commensales aussi, parce que c'est très important, le sushi c'est un plat, mais c'est aussi une manière de manger le plat. Alors, est-ce qu'on le mange avec des baguettes? Est-ce qu'on le mange avec les doigts? Comment il faut tremper son sushi dans la sauce soja? Est-ce qu'on le fait est-ce que c'est simplement le poisson, le riz, etc.? Bon, nous malheureux Français, on a l'habitude de le prendre, si on sait servir de baguette, de le plonger côté riz dans la sauce soja, alors qu'en fait, il faut pas, parce que selon le cuisinier japonais, la tradition japonaise, il faut au contraire simplement le tremper du côté du poisson pour que le riz ne s'imbibe pas de sauce soja. Donc tout ça, c'est aussi des codes que nous, on ne maîtrise pas forcément. Et cette industrialisation, elle a permis aussi... Alors quand je dis industrialisation, c'est industrialisation de la production, mais c'est aussi industrialisation de la vente. Et cette industrialisation de la vente, tu l'as dit, c'était dans le corner du supermarché, mais c'était aussi l'ouverture de chaînes, d'enseignes particulièrement agressives et qui ont permis de populariser le sushi au plus grand nombre.
Est-ce que c'est une... Alors, je ne sais pas si c'est une question qu'on peut trancher, mais je me demande, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, en fait? On considère ça comme une évolution de la nourriture ou comme une trahison un peu de ce que c'est?
Ta question est très morale. Non, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Sur le plan purement gastronomique, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une perte de saveur au profit d'une sorte d'homogénéisation du goût. Bon, mais ça n'engage que moi. Après, si je prends ma casquette de chercheur, je trouve que c'est assez passionnant ce qui se passe. C'est assez passionnant de voir ces mélanges, ces métissages qui se mettent en place entre les différents systèmes alimentaires, différentes cultures culinaires, si tu veux. Ces métissages aussi dans la manière de vendre. On parlait de l'industrialisation de la production, mais aussi l'apparition d'enseignes. Le sushi, dans le secteur du sushi, notamment aux États-Unis, en France, ça a du mal à prendre. Et je pense que ça prendra pas. On voit trop la mécanisation du truc. Ces sushis, ces petites portions de sushis qui sont proposées sur des tapis roulants. Mmh. Alors, apparemment, aux États-Unis, c'est vraiment un succès et ça se fait de plus en plus. Alors, dans le sushi, j'avais lu aussi que certains restaurants brésiliens aux États-Unis faisaient ça. Ils proposaient des plats de viande qui tournaient sur le petit tapis roulant. Bon, en France, je pense que ça fait trop les temps modernes de Chaplin, tu vois. Oui. Là, on aime bien le côté authentique, traditionnel. c'est vrai, c'est pas vrai, c'est même pas ça, c'est pas ça la question. Mais ce côté vraiment où on te montre la technologie, tu prends une claque de technologie en allant au restaurant.
C'est un peu trop, ouais.
C'est un petit peu trop. Mais en même temps, c'est fascinant. Pour le chercheur, c'est fascinant de voir comment les systèmes alimentaires se reconfigurent.
On peut pas dire, écoutez, si il faut aller au Japon uniquement pour manger des sushis, si vous n'y allez pas, enfin, c'est quand même excluant pour énormément
voilà,
de gens.
C'est-à-dire que là, c'est
très... Donc, tant mieux qu'il y ait des possibilités, même pour des gens qui n'ont pas 90 euros à mettre dans, pour manger des sushis, qui puissent quand même goûter le truc et le découvrir aussi par, à leur manière. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui est... Parce que je voyais, là, par exemple, Sushi Shop a sorti avec Cola Greco, qui est un chef récemment triple étoilé, une nouvelle collab. Ils l'ont fait avec Anne-Sophie Pic, ils l'ont fait avec plein de gens. Et c'est drôle parce que je me disais, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on est en train de voir ce qu'on n'a pas pu constater pour d'autres plats. C'est-à-dire que les pizzas, on a jamais vu le moment où la pizza al taglio est arrivée, ou la pizza Chicago style, la pizza machin. Là, c'est comme ça. Et peut-être que là, on est en train de voir le moment où en fait les sushis sont en train de... Il y a une effervescence. Alors évidemment, ça choque un peu parfois, ça perturbe, ça dérange. Mais peut-être que d'un coup, tout va se mettre en place et puis on aura... Bah, les sushis à la française qui seront en fait différents des sushis à la japonaise, on aura les sushis à la brésilienne, à l'américaine, et le monde sera comme ça, quoi. Est-ce que tu penses que c'est l'évolution qui est en train d'arriver?
Oui, mais là en fait, t'es en train de mettre le doigt sur un concept central quand on étudie l'alimentation, c'est ce qu'on appelle la culinarisation. On en avait déjà parlé, si je me souviens bien, quand on avait évoqué le kebab. L'idée qu'il y aurait une sorte de recette originelle qui se diffuserait partout sans aucune modification, c'est nier l'histoire même de la cuisine. L'histoire de la cuisine, ça a toujours été fait comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça a été l'intégration progressive d'un ingrédient, d'une épice, d'une technique de cuisson, d'une manière de dresser, de pratiques commensales, donc comment est-ce qu'on mange ensemble, etc. La différence qui se passe aujourd'hui, c'est que ces évolutions qui prenaient des siècles avant à se faire... Si tu prends par exemple l'exemple du sucre, l'exemple du café, bah, le café par exemple, je crois que vous avez fait en plus une émission sur le café. Bon, le café, sa diffusion dans l'ensemble de la société, elle ne s'est pas faite en 10 ans. Ça a été vraiment d'abord les riches, puis ensuite, etc., etc. Ça a vraiment été une pyramide, ça s'est diffusé depuis le haut de la pyramide jusqu'en bas. Bah, ce qui nous met mal à l'aise, nous, en tant que mangeurs aujourd'hui, c'est que les évolutions qui avaient cours autrefois, qui prenaient des siècles à avoir cours, maintenant, elles ont lieu en quelques années, pour ne pas dire parfois quelques mois. Donc, dans le cas du sushi, c'est ça, moi, je trouve, qui est fascinant. Et alors, dans le cas du sushi, mais dans le cas de l'ensemble de ce qu'on peut appeler les best-sellers alimentaires, donc le kebab, le burger, la pizza, le sushi aussi, donc ces plats qui se sont mondialisés, c'est que justement, en se mondialisant, ils s'adaptent aussi au système en place. Et ça, c'est vraiment... Quand on entend le discours du « Ah là là, on est en train de perdre nos traditions. » Non, 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 moi, je ne suis pas du tout défenseur d'une sorte de cuisine authentique qui n'évoluerait pas. Je le dis toujours, en France, si on devait manger de la cuisine française, on ne mangerait que du gruau d'orge. Bon, excusez-moi, mais c'est bon une fois. Bon, je sais qu'en ce moment, avec le véganisme, le végétarisme, c'est le flexitarisme qui monte. Le gruau va sûrement avoir de beaux jours devant lui. Mais bon, c'est quand même assez restrictif. Ou la soupe de choux. Bon, là, avec ces influences qui n'arrêtent pas, qui sont en reconfiguration permanente, bah, on a des nouveaux systèmes qui apparaissent, des systèmes métis, des systèmes où, dans lesquels les influences se mélangent. Moi, je trouve ça fascinant. Et tu as raison. Alors, ces influences, l'autre chose, c'est qu'elles sont aussi portées maintenant par des acteurs, allez, on va dire institutionnels. C'est-à-dire, ça va être des grandes chaînes, ça va être des chefs, ça va être, avec le prisme médiatique, on a une diffusion encore plus accélérée et qui est portée par des acteurs qui ont des moyens financiers, des moyens médiatiques, de montrer et de mettre en avant et d'influencer les pratiques de tout un chacun, en fait.
Oui, puis si des gens pourraient se dire, ah oui, mais les Japonais ne feraient jamais ça, qui respecte les traditions. Par exemple, il y a pas longtemps, je lisais le katsu sando, l'espèce de tonkatsu avec la sauce et tout. C'est leur interprétation de l'escalope milanaise et du schnitzel. Donc, c'est vraiment que eux aussi, en fait, se réapproprient des trucs pour en faire des plats pour les faire leur. Et c'est vrai que c'est même marrant parce qu'en fait, en France, on se rend compte que notre interprétation du sushi, c'est le faire par des très grands chefs étoilés qui vont faire un truc un peu fin et tout. Et peut-être le seul truc qu'on pourrait reprocher à tout ça, c'est que c'est plus l'industrialisation en fait que que la réinterprétation. L'industrialisation, du coup, fait plus de mal à la faune des mers, fait plus de mal à notre alimentation. Et est-ce qu'au Japon, comment ils voient ce truc-là pour finir? Comment est-ce que les Japonais, est-ce qu'ils disent c'est cool, c'est notre savoir-faire qui s'exporte, c'est notre image? Comment est-ce qu'ils essaient de maîtriser ce truc-là? Comment ça se passe?
Alors là, écoute, je ne suis pas japonais, okay. Donc c'est assez difficile. Mais là encore, je pense qu'il ne faut pas non plus voir la population japonaise comme une... Vu de France, on a tout le temps des stéréotypes associés à une population. Donc les Japonais sont travailleurs et sont attachés à la tradition. Les Méditerranéens sont un peu feignants. Les Américains mangent du fast-food, etc. Bon, alors, on est d'accord, derrière chaque stéréotype, t'as toujours une part de vérité, sûrement. Bon, mais ces Japonais, ça m'étonnerait que tout le monde, tous les jours, mange un kaiseki, tu vois. Donc, je pense qu'eux aussi, qu'ils le veuillent ou non, ils ont des pratiques de plus en plus industrialisées. Donc, certes, quand tu parles avec les gens, ils vont te dire que c'est un problème, que c'est un désastre, une catastrophe, ce que tu veux. Mais là encore, c'est toujours la difficulté quand tu fais de la recherche en sciences sociales, de faire la part des choses entre tout ce qui relève du discours et la réalité des pratiques. Et la réalité des pratiques, bah, malheureusement, elle est un peu moins clinquante que le discours qu'on construit, qu'on reconstruit en permanence.
Merci à Pierre Raffard d'être revenu nous voir. Et pour clarifier cette histoire de saumon dont on parlait, et du coup marketing, alors après vérification, en gros l'histoire en très résumé, la Norvège avait un surplus de saumon à la fin des années 80 et cherchait à le refourguer. Connaissant le goût des Japonais pour le poisson, ils se sont dit qu'ils allaient kiffer. Sauf qu'en fait, les Japonais ils se méfient du saumon cru parce que celui que eux pêchent est pas hyper hyper clean, il faut le cuire en fait pour le manger. Mais bon, les Norvégiens, en faisant un peu les forceurs, en vantant la qualité du saumon de Norvège et en disant « Mais pourquoi vous ne le mettrez pas là sur vos sushis par exemple ?» Ben, ils ont réussi à vendre leur stock et à plus ou moins inventer les sushis au saumon. Donc au début, on se dit « Super pour le commerce », mais vu qu'aujourd'hui, ce sushi est la star des sushis et qu'il est beaucoup trop consommé, on se dit « Bonne idée pour l'argent, un peu moins pour l'environnement ». Enfin bref, je vous mettrai dans la description de l'épisode quelques sources qui raconteront cette histoire avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus qualitativement que moi. Sur ce, revenons à nos poissons crus et écoutons ce que Masayoshi Hanada a à nous raconter sur le sujet. Il cuisine chez Sushibe, un tout petit restaurant où il sert des sushis hyper frais. Il est venu accompagné d'une amie à lui, traductrice, pour l'aider quand il ne trouverait pas forcément ses mots. Et entre autres choses, il m'a expliqué pourquoi il trouve que son resto de 8 places est un poil trop grand. J'ai entendu que vous faisiez maturer le poisson.
Ça dépend de poisson.
Et c'est lesquels qu'on fait maturer et pourquoi?
Ah non, sono sakana no.
Il juge chaque poisson doit être à son état, son meilleur état quand il soit un morceau de sushi. Et il juge s'il a un peu de potentiel pour faire maturer. En attendant un peu, ou どうやったら、どんなテクニック使ってますか？あの、熟すために。
乾燥さ。乾燥だったり、お塩じゃ使ったり、お醤油使ったり、あとはちょっと火を入れたり。
Il y a trois façons ou plusieurs façons de faire maturer les poissons. Il ajoute à la fois du sel et attend un petit peu, ou on grille légèrement des morceaux de poisson. On le fait sécher aussi, et ça dépend du poisson. Et s'il a le potentiel pour atteindre son état, meilleur état, il essaye une de ces techniques pour qu'il soit encore meilleur. Mais s'il est déjà très bon état, c'est pas la peine de faire à maturer.
J'ai entendu qu'on pouvait manger les sushis avec les doigts aussi, pas forcément avec les baguettes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça arrive au Japon qu'on puisse les manger avec les doigts?
Ça dépend de personne.
Ok.
Oui, c'est vraiment. C'est pas obligatoire de manger de à la main.
Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mal vu? Est-ce que c'est. Ou juste ça dépend vraiment d'une habitude?
Ça, non. beaucoup non aussi va tout
En parlant de mes sushis sont très délicatement faits, donc si on pince trop de jours avec des baguettes, ça casse. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les baguettes, ce serait mieux de manger avec la main. Mais c'est comme ça, c'est pas la question de poli, impoli, c'est chacun fait comme ils sont.
Parce qu'en France, c'est souvent mal vu de manger avec les mains, les gens n'ont pas forcément l'habitude, mais c'est vrai que si on arrive, ça rend peut-être plus hommage, on va dire, au sushi de le prendre délicatement avec les doigts que, comme vous disiez, de prendre avec la baguette et de le casser.
Au Japon aussi, on dit que c'est pas poli de manger des nourritures avec les mains, sauf les sushis.
Ah, donc si je viens chez Sushi Bay et que je mange avec les mains, c'est pas très grave. Vous allez rien me... Enfin, c'est pas mal vu.
Non.
Le pire chose qu'on sait, c'est jouer avec des baguettes. C'est insupportable.
Comment on fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des bons sushis, selon vous ? Quel est votre... pas technique, mais qu'est-ce qui fait que vous aimez les sushis que vous faisiez et qu'est-ce que vous appliquez à faire dans les sushis que vous préparez ?
Ça dépend de toutes les choses. La qualité de première matière, bien sûr. La qualité du riz, du poisson, du wasabi et du sauce soja. Mais pas seulement les matières premières, mais aussi la santé et l'état de lui-même. S'ils sont en forme, il a plus de chances qu'il peut faire un bon sushi. Et la température, climat aussi. Quand je fais un très bon sushi, c'est comme un objet d'art. C'est très poétique, ça brille et c'est lui-même, il est très, il porte une espèce de beauté en soi, en lui.
Le restaurant est très petit. Il y a 8 combien de places ? 8-10 places à peu près ?
8 places, juste 8 places.
C'est important pour vous que aussi ça reste quelque chose de petit ?
Oui.
Pourquoi ?
Honnêtement, je préfère que ce soit plus petit que 8. Mais 8, c'est mon maximum capacité que je peux concentrer et je peux servir à mes plats de maximum de qualité. À partir d'une poisson, on ne peut pas récolter une bonne partie. Et 8, c'est le maximum qu'on peut découper. Et si c'est 10 ou plus de 8 personnes, il y a certainement des gens qui n'auront pas de chance de goûter cette bonne partie.
Ah oui, parce que vous récupérez chaque soir, tout le monde mange un seul, enfin vous partagez entre les invités, enfin les gens qui, les clients, un seul poisson à chaque fois par type de poisson.
Oui, de meilleures parties d'un poisson.
Et pour terminer, je sais que vous vouliez me parler de pourquoi est-ce que vous placez les baguettes entre la personne, le convive et l'assiette.
Ah non.
Au Japon, on pose toujours les baguettes horizontales devant vous. C'est pas vertical, diagonal, c'est toujours horizontal. Et je sais que en France, vous mettez les fourchettes et couteaux, tout ça, verticalement, mais au Japon, c'est toujours horizontal. Et même les Japonais, ils connaissent pas pourquoi, mais je voulais expliquer aujourd'hui pourquoi. Et depuis ancien temps, les Japonais considéraient que tous les objets, sauf les humains, sont des dieux, une espèce de dieu, les arbres, les animaux, et tout était les dieux. Et quand on consomme, dans le sens manger quelque chose sacré, on distingue, en mettant des baguettes devant nous horizontalement, on distingue le monde humaine et le monde sacré. Et c'est pour ça que les baguettes sont toujours posées horizontalement, pour dire qu'à partir d'ici, c'est l'endroit du Dieu sacré. Et on remercie toujours les nourritures qui sont là, les animaux qui sont là, et les végétales qui sont là aussi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même les Japonais ne connaissaient pas la signification de baguette horizontale, mais une fois quand on a appris la tradition ou le sens profond, on commence à apprécier plus et remercier plus la nourriture qui sont présentées devant nous. Mais ça ne choque pas parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui ne font pas forcément le liaison.
Merci à Masayoshi d'être venu. Retrouvez-le chez Sushi B si vous voulez vous faire un beau dîner. Et merci encore à Pierre Raffard. On vous met toutes les infos, les ressources, etc. dans la description, notamment un article illustré hyper chouette qui raconte l'histoire de l'invention des sushis. Et c'est là la fin de cet épisode, mais je serais ravi qu'on prolonge la discussion sur nos réseaux sociaux, Twitter et Insta, @bouffonne. Et puis vous pouvez retrouver nos adresses sur notre carte Mapster. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes animée par moi, Guillaume Malissen, enregistrée par Ashley Tola et Marine Rowe, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination, Laura Cuissard. Parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts si le cœur vous en dit. Sur ce, à la semaine prochaine !